France Inter.
Il est 13h sur Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Comment un tel massacre a-t-il pu avoir lieu en 2 jours seulement? Les mots du cinéaste iranien Jafar Panahi, Palme d'Or 2025, il prend la parole dans ce 13-14 pour la première fois depuis la révélation par plusieurs ONG de l'ampleur de la répression dans son pays, au moins 30 000 morts. L'un de ses proches vient d'ailleurs d'être arrêté par le régime des Mollahs. Nous l'écoutons dans un instant. À suivre encore, les locaux du réseau social X perquisitionnés à Paris. La diffusion de contenus négationnistes et de fausses images à caractère sexuel au cœur de l'enquête. Et puis cette affaire de pédocriminalité, 10 hommes mis en examen à Lille pour des violences sexuelles sur un garçonnet. Nous parlerons aussi de l'état des commerces dans nos centres-villes. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Ils sont de plus en plus nombreux à s'installer en périphérie.
Et donc à quitter les cœurs de ville, s'inquiète l'Alliance du commerce, faute d'attractivité. Les clients sont de moins en moins nombreux. Résultat, le taux de magasins vides est de plus de 11% en France, quasiment 2 fois plus qu'il y a 15 ans.
On parlera donc consommation avec vous et à partir de 13h30, nous parlerons de l'épargne des Français. Elle ne cesse de grossir. Pour quelles raisons? Où placer son argent? 01 45 24 7000 pour vos questions à Dorothée Rouzet, chef économiste du Trésor. Elle est notre invitée. Dans quelques minutes également, la composition du 15 de France de rugby pour le début du tournoi des 6 nations. Ce sera face à l'Irlande jeudi avec une charnière Dupont-Jalibert. Et puis la révolte des doubleurs. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour à tous.
Qui dénonce le recours à l'IA.
8 comédiens français de doublage viennent de mettre en demeure des plateformes d'IA. Elles auraient cloné leur voix, évidemment, sans autorisation.
On reparlera de l'IA, Danser la France, 13h50, Cyril Petit et la vidéoprotection avec l'intelligence artificielle. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la suite de notre série olympique avec le double champion olympique de volleyball, Erwin Gapet. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Des négociateurs américains et iraniens face à face, ce sera vendredi à Istanbul et ce sera une première depuis la répression des manifestations anti-régime en Iran qui ont fait au moins 30 000 morts, selon plusieurs ONG. Mais la répression ne sera pas au menu des échanges en fin de semaine. Donald Trump veut surtout parler du nucléaire. Parmi les grandes voix iraniennes à dénoncer le régime de Téhéran, le cinéaste Jafar Panahi, primé à Cannes l'an dernier avec son film Un simple accident. Il est actuellement en France. Il a appris ce week-end l'arrestation de son ami et co-scénariste du film, Mehdi Mahmoudian. Nous avons pu joindre Jafar Panahi en fin de matinée. Il s'exprime pour la première fois depuis que l'on connaît l'ampleur du massacre dans son pays.
Ce n'est pas que moi, mais tous mes amis, tous les Iraniens sont sous le choc. Quand on voit toutes ces vidéos, en fait, qui sortent depuis que l'Internet a été rétabli en Iran, c'était invraisemblable. Comment, en fait, un tel massacre a pu avoir lieu, en fait, en 2 jours, un tel massacre sur 10 jours. Mais si on veut calculer ou même penser en fait que c'est même quand on fait une guerre, même une guerre en fait, se dire en 2 jours, en 10 heures, tant de morts, c'est invraisemblable en fait. Ça a été très difficile en fait de gérer nos émotions en fait. On attendait tout le temps d'autres nouvelles, on était inquiets pour nos familles, nos amis, nos collègues et tous les Iraniens en fait. Maintenant, il y a la colère en fait chez les Iraniens. Ce peuple a le sentiment que ça sera plus jamais pire que ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense tout le temps, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un régime puisse arriver à un tel degré de violence et de tuer son propre peuple avec une telle force. C'est invraisemblable et ce sont des signes que ce régime est arrivé à un endroit où il sait qu'il n'a aucune légitimité chez les Iraniens. Il voit en fait sa chute et donc c'est comme quelqu'un qui est un peu au bout de quelque chose et il va tout essayer pour rester sur place.
Jafar Panahi, ça veut dire que vous qui documentez, qui racontez, qui expliquez la violence de ce régime depuis des années, vous avez tout de même été surpris par l'ampleur de la répression et par le degré, le niveau de violence qui a été atteint, même vous.
Je ne sais vraiment pas, en fait, toutes ces vidéos qui sortent d'Iran a été montrée, en fait, dans les médias occidentaux. Mais je propose... Il y a une vidéo dans laquelle il y a un père, c'est deux minutes et demie, il y a un père qui est parmi plein de cadavres et il cherche en fait son enfant parmi les cadavres dispersés et il appelle son fils en disant « C'est père, où es-tu ? Où es-tu ? » Il faut le regarder, il faut diffuser ces vidéos, il faut les sous-titrer pour que tout le monde dans le monde arrive à voir qu'on entend en fait la voix de ce père et en fait et de regarder cette masse de cadavres par terre. Il n'y a pas de doute. Vous voyez, c'est un plan, c'est deux minutes. Il n'y a pas de trucage. Je vois qu'il n'y a pas de trucage. C'est un exemple des milliers d'exemples de massacres qu'ils ont commis partout en Iran. Si vous voyez cette vidéo, vous arrivez à comprendre... Dans le monde actuel, comment on se demande comment c'est possible ce genre de massacre.
Les manifestants qu'on a pu entendre ont appelé, une partie d'entre eux en tout cas, au soutien extérieur d'autres pays. On sait que des négociations vont débuter en fin de semaine entre les Iraniens et les Américains, plutôt autour du sujet du nucléaire. Est-ce que vous en attendez quelque chose, Jafar Panahi ?
Franchement, je n'ai aucune attente en tant que cinéaste. Nous sommes toujours à la recherche de comprendre ce que le peuple demande. Hein. C'est invraisemblable de voir que le peuple est arrivé à un tel point de demander en fait ce genre d'aide et de se dire que tout ce qui arrivera, ce sera de toute façon mieux que ce qui s'y passe en ce moment. Et donc, ils n'ont plus l'espoir de faire tout ça tout seul. Moi, je ne soutiens pas quelque chose de particulier. Moi, en tant que cinéaste social, je montre la réalité de la société et c'est comme ça que mon cinéma accompagne le peuple.
Le réalisateur Jafar Panahi, traduit par Assal Bagheri, entretien enregistré en fin de matinée. Merci à Corinne Pellissier qui l'a rendu possible. Première prise de parole depuis la révélation de l'ampleur de la répression dans son pays, l'Iran. Lui risquait la peine de mort pour détention et trafic de drogue en Malaisie. Le Français Tom Félix, 34 ans, détenu depuis plus de 900 jours, va finalement retrouver la liberté puisqu'il a été acquitté ce matin par la justice malaisienne. Bonjour Élie Ducot.
Bonjour.
Libération saluée par ses proches et par le ministère français des Affaires étrangères.
Oui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réagi quelques minutes après l'annonce de sa libération. C'était ce matin sur France 2.
C'est un immense soulagement. Ça fait depuis un an et demi qu'il était détenu en Malaisie. Il encourait, vous l'avez dit, la peine de mort. Il vient d'être acquitté. et l'accusation renonce à faire appel. Et donc, dans ce moment, j'ai une pensée pour ses parents que j'ai rencontrés à deux reprises l'année dernière et qui vont enfin pouvoir retrouver leur fils.
Les parents de Tom Félix, enseignant installé à Singapour, ont fait le déplacement en Malaisie pour suivre cette audience. Ils ne s'expriment pas pour le moment. Aucune prise de risque, alors qu'on ne sait pas encore quand le Français pourra vraiment sortir de prison. Mais ça ne devrait pas tarder, nous dit son avocat François Zimeray.
On est à la fois soulagé et heureux de voir que finalement il a été réellement jugé. Vous savez, ce que je craignais, c'est le jugement expéditif, c'est que les choses aillent trop vite, qu'on ne prête pas attention. Et la justice, elle doit être attentive, elle doit être méticuleuse et elle l'a été là.
La justice malaisienne a encore possibilité de prononcer la peine de mort, mais dans les faits, elle ne l'a plus appliquée depuis 2018.
Merci Élie Ducos. Toujours à l'étranger, plus de 50 000 personnes évacuées depuis vendredi dans le nord du Maroc, la plupart à titre préventif en raison des fortes pluies. En Ukraine, le réseau énergétique violemment pris pour cible. La nuit dernière, des centrales électriques gravement endommagées, nous disent les autorités. Ce sont les frappes les plus puissantes sur ce réseau depuis le début de l'année. Dans un entretien à la chaîne Sky News, le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui plaide pour la levée de la suspension de la Russie et de ses clubs dans les compétitions internationales. Suspension de la Russie décidée après l'invasion de l'Ukraine, c'était il y a 4 ans. C'est un dossier tentaculaire, le dossier judiciaire du financier Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement plus de 1000 jeunes femmes, certaines mineures, et retrouvé mort Epstein dans sa cellule de New York en 2019. Il a été tout au long de sa vie en lien avec des personnalités à travers le monde, et ces personnalités apparaissent donc dans les 3 millions de documents publiés vendredi par la justice américaine à la demande de l'administration Trump. On a par exemple appris la nuit dernière que le couple Bill et Hillary Clinton allait témoigner devant une commission d'enquête parlementaire américaine sur cette affaire. Mais il y a aussi des personnalités françaises dans ce dossier qui ont eu des liens avec Epstein, et notamment Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, ainsi que sa fille Caroline, qui elle travaille dans le cinéma. Elle vient d'ailleurs de démissionner de son poste de délégué général du syndicat de la production indépendante. Bonjour Thomas Vinclair.
Bonjour.
Quel était le lien de ces deux personnalités avec l'Américain ?
Il y avait une proximité, notamment avec Caroline Lang. Dans les mails, on découvre ses rendez-vous nombreux au théâtre, dans des musées. Epstein parle d'un moment unique passé avec la fille Lang en 2013. Cette relation est aussi financière. Ensemble, ils ont créé une société en 2016, la Brittany LCC, basée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal. La fille de Jack Lang détient une moitié, Jeffrey Epstein l'autre. Un fonds jamais déclaré au fisc français destiné à favoriser l'acquisition d'œuvres de jeunes artistes, explique Caroline Lang. Le père, Jack Lang, est aussi un proche, en témoigne cette invitation envoyée à Jeffrey Epstein pour assister avec lui à une comédie musicale. On est alors en 2012. En 2015, le couple Lang propose à Jeffrey Epstein d'acheter un riad marocain situé à Marrakech. La femme de l'ancien ministre de la Culture transmet les photos du bien par mail et écrit « J'espère vous revoir bientôt à Marrakech ». Question d'Epstein, une idée du prix, 5 400 000 euros, répond Jack Lang.
À cette époque, au moment où Jack Lang et sa fille sont en relation avec Jeffrey Epstein, existe-t-il déjà des soupçons concernant le financier américain ?
Oui, car en novembre 2018, le Miami Herald révèle que Jeffrey Epstein a été poursuivi en 2008 pour incitation à la prostitution de mineurs. Certaines filles sont âgées de 14 ans après avoir plaidé coupable. Il évite un procès. Après ces révélations, la fille et le père Lang continuent d'échanger avec le multimillionnaire, l'invitant même aux 30 ans du Louvre en mars 2019. À Mediapart, Caroline Lang explique avoir fait confiance à Jeffrey Epstein. Il lui assure avoir alors payé sa dette en juillet 2019. Jeffrey Epstein est finalement inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs et incarcéré. La famille Lang dit alors tout découvrir. À ce moment, Caroline Lang assure mettre fin à sa participation au fonds qu'elle détenait avec Jeffrey Epstein.
Merci Thomas Vinclair pour ces explications. Dans la foulée de ces publications de documents, la France Insoumise propose la création d'une commission d'enquête transpartisane à l'Assemblée. Vous retrouverez un dossier complet sur le site et l'application Radio France. C'est une affaire de pédocriminalité des plus sordides et les actes sur lesquels enquête le parquet de Lille sont particulièrement difficiles à entendre. Je me dois de vous prévenir. Un enfant de 5 ans aurait subi des violences sexuelles aggravées de la part de 10 hommes. Ils sont mis en examen. C'est le propre père du garçonnet qui les aurait mis en relation. Il aurait eu recours à des substances chimiques. Précision à Lille, Léa Oudouard.
L'enfant est un petit garçon de 5 ans et demi qui avait été amené par son père dans une soirée chemsex organisée à Lille il y a un peu moins d'un an. Plusieurs hommes majeurs étaient présents sur place, ils ont consommé de la drogue et en ont administré au petit garçon qui a subi plusieurs viols et agressions sexuelles avec torture et actes de barbarie. Des vidéos de ces viols ont ensuite été diffusées en ligne. Selon le procureur de Lille, Samuel Finiels, le père du petit garçon aurait lui aussi subi plusieurs agressions sexuelles et viols ce soir-là. Dans cette affaire, 10 hommes âgés de 29 à 50 ans ont d'abord été mis en examen, 9 d'entre eux placés en détention provisoire. L'un des principaux mis en cause s'est suicidé le 21 juin dernier alors qu'il était en prison. Le 23 janvier, un autre homme a été interpellé à Strasbourg puis transféré à Lille. Le petit garçon de 5 ans a lui été confié à sa mère, séparée du père, le père de famille qui a interdiction de rendre visite à son fils.
Précision signée Issinor. Justement, la pédopornographie, c'est l'un des motifs, pas le seul, qui justifie l'enquête ouverte par le parquet de Paris, cette fois contre le réseau social X, ex-Twitter et propriété du multimilliardaire américain Elon Musk. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Les locaux français de X perquisitionnés ce matin et Elon Musk va être convoqué.
Oui, convocation envoyée par le parquet de Paris au propriétaire du réseau social X pour le 20 avril prochain. Pas en vue d'un placement en garde à vue, mais en audition libre, un régime qui montre que les magistrats s'inscrivent dans une démarche constructive, précise la procureure de Paris, Laure Bécuot, ce matin dans un communiqué. Mais la convocation dans une affaire aussi sensible montre malgré tout que la justice française, comme d'autres en Europe, veut frapper fort sur le respect de la loi française. Vous l'avez dit, par rapport notamment au fonctionnement de Grok, l'intelligence artificielle de la plateforme d'Elon Musk, qui a conduit à la diffusion, on le sait, de contenus négationnistes et de vidéos truquées à caractère pédopornographique. Mais l'origine de la procédure, ce sont des signalement de députés sur la modification de l'algorithme de X à des fins d'ingérence étrangère pour mettre en avant des messages de haine, par exemple. Le 19 juillet dernier, le parquet de Paris avait officiellement demandé l'accès à l'algorithme de X, réquisition jusqu'à présent lettre morte. Les perquisitions des locaux parisiens de X et la convocation du puissant patron américain résonnent comme un coup de pression pour obtenir les clés de l'algorithme et vérifier qu'il est bien en conformité avec la loi française.
Emmanuel Leclerc, au procès en appel des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front National. On connaîtra dans l'après-midi les réquisitions contre Marine Le Pen, contre le Rassemblement National et contre 10 autres de ses cadres poursuivis pour détournement de fonds publics. Ce matin, les avocats du Parlement européen, partie civile dans ce procès, ont eu la parole. Ils ont parlé de la confiance trahie par ces eurodéputés. Sur place, Sarah Guibaudot.
Nous ne sommes pas là pour demander des sanctions, commence Maître Patrick Maisonneuve, mais il veut faire passer deux messages. D'abord, que le Parlement a bien été victime de ce système qui consistait à faire travailler pour leur parti des gens rémunérés par les fonds européens. Et malgré l'entrée en matière de Marine Le Pen, qui avait déclaré « si on dit qu'un délit a été commis, je suis prêt à l'admettre », je n'ai pas le sentiment, moi, que cette reconnaissance est intervenue, poursuit l'avocat de la partie civile. Il prend l'exemple de Julien Oudoul, ancien assistant parlementaire, aujourd'hui porte-parole du RN. C'est la faute de sa députée. Elle ne m'avait pas donné de travail. Il faut oser, lance l'avocat. C'est comme dire j'ai mis les mains dans la confiture, mais personne ne m'a dit que c'était de la confiture. Patrick Maisonneuve rappelle aussi la stigmatisation violente des juges qui avaient suivi la décision de première instance. On a parlé de hold-up démocratique, de coup d'état judiciaire. La peine d'inéligibilité n'est ni exceptionnelle ni rare. S'ils ne sont pas d'accord, que les responsables politiques légifèrent, mais ces mots ont un impact sur nos concitoyens, souligne l'avocat du Parlement européen. Le risque est vraiment là.
La décision de la Cour d'appel est attendue d'ici la fin de l'été.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Emmanuel Macron, de retour sur le terrain en France. Ça faisait longtemps, le président de la République a attendu que la colère des éleveurs s'apaise pour aller à leur rencontre. C'était ce matin à Haute-Saône, à Vesoul, dans une exploitation agricole, à un peu plus de 2 semaines d'un salon de l'agriculture, que le chef de l'État va inaugurer sans bovins en raison des craintes des agriculteurs vis-à-vis de la dermatose nodulaire. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi cette visite ce matin. Bon, l'épidémie est évidemment au cœur des échanges, mais aussi l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur.
Absolument, dans cette ferme, celle de Cédric et Raphaël Pi, 200 vaches laitières, quelques parcelles de blé et un avant-goût de salon de l'agriculture.
Il n'est pas content lui.
Ah ouais. Oh, pauvre vieux.
Il pourra dire qu'il nous a vu.
pas contents, justement comme ces éleveurs, harassés par les contrôles, épuisés par les normes et qui ne se privent pas, écoutez, de renvoyer Emmanuel Macron à son impuissance politique.
De toute façon, c'est le bordel partout.
Monsieur le Président, bon, vous n'avez plus beaucoup à être aux manettes. Le monde paysan, ça fait un moment qui ne va plus trop bien. Il faut arrêter d'en foutre plein la gueule des Français, exactement, pour être franc.
Et mieux contrôler ce qu'on importe, ce qu'on a obtenu là dans la bataille qu'on a menée sur le Mercosur.
Dans ce contexte de crise, le mantra du président est là. On s'est battu et on ne va pas vous lâcher. Bref, choyer les agriculteurs, apaiser la colère en rappelant que la France a dit non à ce traité de libre-échange.
Et ce que je disais pendant le Covid reste vrai aujourd'hui. On ne peut pas déléguer notre alimentation à d'autres. Et au fond, il faut faire avec notre agriculture exactement ce qu'on a fait ces derniers mois pour notre acier ou pour notre automobile. De la préférence européenne et de la protection.
Objectif montré que tout ne va pas si mal. Emmanuel Macron rappelle d'ailleurs qu'il n'y a plus de cas de dermatose nodulaire contagieuse. Il invite les filières à revoir leur jugement. Après avoir annoncé qu'il n'y aurait pas de bovins au salon de l'agriculture, vous comprenez que le président veut en faire une fête. En politique aussi, Jérôme, ce qu'il a fait ce matin, cela s'appelle préparer le terrain.
Merci Paul Barcelone, en direct de Vesoul avec les moyens techniques de Johanna Gabrick. Et tout cela alors que le sénateur Les Républicains, Laurent Duplomb, lui n'a pas renoncé à faire autoriser à nouveau en France et pour les agriculteurs l'utilisation de deux puissants insecticides dont l'acétamipride. Il veut pour cela déposer une nouvelle proposition de loi. Il avait tenté de le faire dans un autre texte l'an dernier, mais la disposition avait été à l'époque censurée par le Conseil constitutionnel. Réaction à cette initiative d'Ève Fouilleux. Elle est chercheuse au CIRAD, l'organisme français de recherche agronomique.
Cette proposition de réintroduction, elle va à l'encontre de ce que préconise la science et de tous les travaux scientifiques qui sont faits sur ces molécules et sur les pesticides en général. Ces molécules et les pesticides font peser une menace sur les écosystèmes à travers des pollutions massives des sols, de l'eau, de l'air. On trouve des pesticides dans les nuages. Et puis, en termes de santé publique, c'est une menace sur les agriculteurs au premier chef. C'est eux les premières victimes des pesticides. Remettre des molécules qui ont été interdites parce qu'elles étaient dangereuses, ça pose un vrai problème et un vrai problème de déni de science.
Ève Fouilleux au téléphone de Sandy Dauphin. Confirmation que l'inflation en France est un lointain souvenir. Les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,3% au mois de janvier sur un an, chiffre donné par l'INSEE. Calme plat également dans les boutiques en ce mois de janvier de solde. L'Alliance du commerce, qui représente les magasins de mode et de chaussures, nous donne ces chiffres. Bilan mitigé, chiffre d'affaires en baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Tout confondu, on parle des magasins et d'Internet. Explication uniquement pour les magasins, c'est la neige qui aurait dissuadé les acheteurs dans plusieurs régions. Voilà qui ne va pas améliorer le sort des commerces en centre-ville. Luc Chemelin, on vous retrouve. Les derniers chiffres sur la vacance commerciale sont alarmants.
Oui, des enseignes disparaissent ou désertent de plus en plus les cœurs de ville. Résultat, en moyenne en France, la vacance commerciale dans les centres-villes, c'est-à-dire la proportion de magasins vides et fermés pour une durée indéterminée, est de plus de 11%, un taux qui a quasiment doublé en 15 ans. Et dans certaines communes, les commerçants sont particulièrement en souffrance. D'après le cabinet d'études Retail Int, le chiffre d'affaires, par exemple, des magasins du centre de Grenoble a diminué de 14,6% depuis 2022. C'est plus de 10% à Saint-Étienne, 7% à Nancy ou encore à Rennes. Les clients sont moins nombreux. Parmi les raisons, la concurrence d'Internet, mais aussi les politiques anti-voiture, sous-entend Bernard Cherki, président de l'Alliance du commerce.
Aujourd'hui, pour faire du commerce en centre-ville, il faut une accessibilité qui soit améliorée. Et on a certaines villes qui ont fait des choix et qu'on peut bien entendu respecter, mais ces choix impliquent qu'il y a une beaucoup moins bonne accessibilité. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de villes, en province bien entendu, où les gens habitent un petit peu en périphérie, et comme il y a une offre commerciale en périphérie, s'ils n'ont pas du plaisir à venir en centre-ville, s'il n'y a pas la sécurité demandée, s'il n'y a pas la propreté, si ça doit être un moment de stress, ils vont rester en périphérie.
Et surtout que beaucoup d'enseignes justement priorisent désormais la périphérie car les loyers sont souvent moins chers, les magasins plus grands, donc plus d'espace pour présenter les collections et régulièrement des parkings sont situés à proximité, de quoi attirer les automobilistes.
Luc Chemla, le géant japonais du jeu vidéo Nintendo, lui se frotte les mains. Sa dernière console, la Switch 2, se vend très bien, bénéfice en hausse de 51% sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025-2026. Je ne sais pas si le sport devant son écran peut aider, mais de plus en plus de seniors travaillent leur équilibre, car chaque année en France, 2 millions de personnes de plus de 65 ans Chute, résultat, 130 000 hospitalisations et parfois pire, 10 000 décès chaque année. Voilà pourquoi à Ligugé, dans la Vienne, chaque semaine, un club de gym propose des cours d'équilibre pour les seniors. Julien Morcelli y a assisté.
Ils sont une vingtaine à suivre à la lettre les consignes d'Isabelle, la prof de gym.
Bah là, tu vas décaler tes mains le plus doucement possible, sans partir sur l'arrière. Bah
oui. Là, vous lui faites faire quoi?
Bah là, on revoit en fait les techniques de façon à pouvoir se relever du sol.
Recroquevillée au sol, Christelle tente tant bien que mal d'appliquer l'exercice. Elle tient à travailler son équilibre pour éviter les chutes.
Parce que je suis tombée il y a 5 ans sur la hanche. Donc là, on renforce les muscles partout. On fait travailler les articulations.
Des mauvaises chutes, ici, tous en ont déjà fait.
Oui, je suis tombé sur la colonne vertébrale.
Bah, je suis tombé carrément par terre en voulant ramasser quelque chose et puis boum.
Allez, Jean-Louis, voilà, c'est bien ça, parfait. Sortir de la.
Jean-Louis, vous avez poussé un cri de soulagement.
Oui, parce que ça demande une concentration.
Lui a 89 ans et il vient à ce cours pour avoir des réflexes.
Je sais que quand j'étais en pleine forme, j'ai fait des chutes standards, mais on fait automatiquement un geste de rouler-boulet. Tant que c'est le réflexe, mais maintenant, je me demande si j'ai encore le réflexe de faire ça pour tomber, non pas droit, mais en boule.
En plus de l'équilibre, ces séances permettent aussi de travailler la mémoire sur Brigitte Dreyfus, la présidente du club.
La mémoire se travaille d'autant mieux que les exercices de mémoire sont associés à des exercices d'activité physique.
Ces cours sont accessibles à tous, sans limite d'âge. Le doyen du club a 90 ans.
Reportage ici, Poitou. Alors là, il vaut mieux savoir tomber. Le rugby, début du tournoi des Six Nations, jeudi après-demain, au Stade de France, pour l'équipe de France qui commence par un gros morceau, c'est l'Irlande. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes allé écouter ce matin à Marcoussis le sélectionneur Fabien Galthié qui a donné la composition de son équipe. Retour d'Antoine Dupont, c'est acté. Il y a aussi quelques nouveautés.
Oui, il avait brillé l'été dernier lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Théo Atisogbe, 21 ans, il débutera ce match à l'aile. Il aura la lourde tâche de succéder à Damien Penaud. Le meilleur marqueur d'essai de l'histoire des Bleus a été écarté par Fabien Galthié, comme d'autres cadres, hein, comme Grégory Aldrit ou Gaël Ficou. Alors pour ce choc face aux Irlandais, le sélectionneur a bâti une deuxième ligne inédite formée de Charles Olivon et de Michael Guillard. Ce match d'ouverture va marquer le retour en sélection, vous en parliez, de l'icône du rugby français, Antoine Dupont. Après un an d'absence, il sera associé au Bordelais Mathieu Jalibert, très performant depuis le début de la saison. Une association alléchante, mais qui n'a pas toujours pleinement convaincu sous le maillot bleu. Mathieu Jalibert va abattre une carte importante face aux Irlandais et la prestation de cette charnière sera scrutée de près jeudi soir au Stade de France.
Oui, pourquoi jeudi soir, Vincent? C'est la première fois qu'un tournoi commence un jeudi.
Première fois, c'est une première pour une raison très simple, c'est que France Télévisions, qui est le diffuseur pas unique, hein, puisque
oui, TF1 aussi
France
cette année,
a revendu des matchs à TF1. Vendredi soir, ce sera la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan-Cortina. Et donc, c'est France Télé qui retransmettra cette cérémonie d'ouverture. Donc, on a avancé.
Voilà, pas de concurrence.
Voilà, on a avancé le match d'ouverture du tournoi à jeudi soir.
Voilà pourquoi cette programmation est ainsi faite cette année. Merci Vincent Pellegrini. Ce sont des voix que vous connaissez, des comédiens qui prêtent leur voix à des stars d'Hollywood ou des personnages d'animation dans les films en version française. Leur travail, c'est de faire du doublage. Et ils entament une action inédite. Xavier Demagny, on vous retrouve. Ils réclame le retrait de plusieurs voix de synthèse disponibles sur des outils en ligne d'intelligence artificielle, des voix qui, selon eux, ont été créées sur les bases de leurs propres voix. Ce sont des plateformes américaines qui sont visées.
Oui, VoiceDub et Fish Audio, c'est leur nom, accusés d'avoir cloné sans autorisation. Par exemple, la voix de Françoise Cadol, doubleuse d'Angelina Jolie ou Sandra Bullock, et voix off de dizaines de pubs, livres audio ou documentaires.
Malgré plus de 7 milliards d'humains sur Terre, l'homme n'est pas l'espèce la plus abondante.
Ce qu'on entend, ça, c'est sa vraie voix. Et voilà celle proposée par l'IA.
C'est un mécanisme de protection naturelle. Si on se souvenait de tous nos rêves, notre cerveau ne ferait plus la différence entre les souvenirs réels et imaginaires.
Oui, c'est très proche.
C'est effectivement très ressemblant. Elle est référencée comme narratrice documentaire et elle dénonce un piratage pur et simple.
Si vous entendez votre voix, vous savez, vous allez tout de suite l'identifier. On sait quelle est notre voix. C'est pas que ressembler à la voix, c'est ma voix. Personne n'a le droit de prendre l'image ou la voix de quelqu'un et d'en faire ce qu'il veut.
Alors la loi en Europe et en France est très claire, c'est interdit, affirme maître Jonathan El-Kaïm. Il défend également 7 autres de ses comédiens unis pour la première fois, Richard Darbois, Brigitte Lecordier et même les représentants de Benoît Hallmann, doubleur de Morgan Freeman, décédé il y a un an. Pour l'avocat, le problème dépasse leur situation.
au-delà de ça, il y a une cause à défendre, que demain, bah, vous, moi, nos enfants respectifs puissent protéger leur voix de manière efficace. Et quand je pense que sur ce type de plateforme, vous pouvez également avoir la voix de notre président de la République, la voix de sportifs très connus qui représentent aussi notre pays, une question éthique se pose aussi au-delà du juridique.
Les deux plateformes ont 8 jours pour agir, sans quoi les comédiens se réservent le droit de les attaquer en justice.
Merci Xavier Demani. Je reviens un instant au procès en appel à Paris en ce moment du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Le parquet général a commencé ses réquisitions. Il annonce qu'il va demander des peines d'inéligibilité et la confirmation des culpabilités. On verra tout cela dans le détail tout à l'heure à partir de 14h, 13h30 sur Inter. Un peu de retard, on va accélérer la météo de Stéphanie Fromentin dans un instant. Notre invité dans quelques minutes, toutes vos questions sur l'épargne 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton, nous sommes dans le Rhône. Notre chercheur agronome qui est de retour à la ferme. 13h50, bonjour Cyril Petit.
Bonjour Jérôme.
C'est la France, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien de l'Orient dans le Morbihan, à Nice dans les Alpes-Maritimes, en passant par La Farlette dans le Var, je vous parle de la vidéosurveillance qui fait appel à l'IA dans certains supermarchés.
Toujours l'IA, et dans C'est une chanson, Frédéric Pommier et un champion, double champion olympique, Erwin Gapet, qui demande le rappeur SDM.
J'ai des flashs quand je l'écoute, j'ai des flashs. Là, j'ai gagné le championnat en Turquie et on me dit « Erwin, mets la musique !» Et c'est la première qui est sortie, tu vois. Donc elle est vraiment associée à des bons moments, mais c'est vrai que dans les moments compliqués, je l'écoute aussi.
Merci à tous les deux. À tout à l'heure.
Roman Monnier a disparu. D'elle, il ne reste qu'un téléphone portable. Des notes, des messages, des souvenirs, des enregistrements. Autant de traces confiées à un inconnu, un samedi soir dans un bar.
Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan, un roman sensible et captivant qui nous plonge dans une époque où, de plus en plus, la vérité nous échappe. Je suis Romane Monnier, le roman événement de Delphine de Vigan, aux éditions Gallimard.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 10 au 14 juillet 2026. Avec Aurel San, Aya Nakamura, Gims, Mika, Feu Chatterton, Niska, Gaël Faye, Elena, Marguerite, Mickey, Vincent Delerme et bien d'autres. Les Francofolies de La Rochelle, du 10 au 14 juillet 2026, un événement France Télévisions et France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Si je mets le sud-ouest de côté, ce qui est quand même difficile, les pluies et les averses sont encore au programme.
Une situation qui se maintient de la Normandie au quart nord-est avec des pluies effectivement parfois modérées près des Ardennes. De la neige en Alsace des 1000 mètres. Météo France maintient une vigilance orange pour des risques de crues sur la Gironde. Ailleurs, le ciel est variable avec alternance d'averses, d'éclaircies mais des pluies plus fréquentes et parfois orageuses près de l'estuaire de la Gironde, sur l'est de Languedoc, en région PACA et puis toujours de la neige des 1100 mètres sur les massifs. Un risque d'avalanche sur les Alpes du Sud. Le tout sous un vent souvent sensible, 40-60 km par heure sur l'ensemble de l'Hexagone. Il n'y a donc que le sud-ouest où les éclaircies sont plus larges et le temps sec, avec en majorité une homogénéité, une belle douceur, 8 à 15 degrés.
Oui, voilà, des températures qui restent concentrées.
C'est ça.
Du nord au sud. Merci Stéphanie Fromentin.
Je vous en prie.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Dorothée Rouzet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste à la Direction Générale du Trésor. C'est un titre très impressionnant. En quoi est-ce que ça consiste précisément?
Alors la Direction Générale du Trésor, c'est une administration de Bercy, du ministère des Finances.
D'accord.
Qui prépare, analyse, conseille le gouvernement en termes de politique économique sur en fait tout un ensemble de politiques économiques. Et donc moi, en tant que chef économiste, en quelque sorte, je dirige les travaux des économistes qui agissent sur ces différents fronts.
C'est parfaitement clair. Nous allons ensemble parler d'épargne. L'épargne des ménages français qui bat des records, elle représente 6 600 milliards d'euros, les Français épargnent de plus en plus et la part de leurs revenus consacrée à l'épargne dépasse désormais celle des Allemands. Ça, c'est une première depuis l'an 2000. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez aussi via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Ça peut être un message écrit ou ça peut être un message audio. Dorothée Rouzet, épargne, taux d'épargne record en France. On est toujours sur la lancée du Covid ?
On a eu en fait différentes vagues de crises qui ont conduit les Français à épargner. Effectivement, aujourd'hui, les Français, sur l'année dernière, ont épargné en moyenne, ça évidemment, ça dépend beaucoup des ménages, mais en moyenne 18% de leurs revenus. Avant le Covid, on était à 14-15% depuis des décennies.
18% alors, du revenu voilà. Part en épargne, en moyenne.
Voilà. Et ça s'explique, alors ça s'explique par le fait que il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu la vague de hausse des prix et des prix de l'énergie qui a pu conduire les gens à attendre de voir venir, il y a eu plus d'incertitudes sur le plan national l'année dernière, donc tout ça conduit un petit peu à attendre. On a aussi eu des revenus qui ont été davantage tirés par les intérêts, les produits de placement, et on a tendance à moins consommer ce type de revenus que les salaires ou les retraites ou les transferts sociaux. Donc ça s'explique, mais c'est vrai que ça commence à s'inscrire dans la durée.
Je suppose que tous les Français n'épargnent pas. Est-ce qu'on a une idée de la part des Français qui parviennent à épargner ou qui font le choix d'épargner ?
Alors, il y a beaucoup de Français qui ont une épargne, c'est-à-dire qui ont de l'argent de côté.
Ça veut dire quoi, beaucoup de Français ?
9 Français sur 10 ont un peu d'argent de côté.
Alors,
ça peut être un peu, ça peut être beaucoup. Il y en a à peu près 6 sur 10 qui ont de l'épargne immobilière, c'est-à-dire ils ont investi dans l'achat de leur maison ou de leur appartement. En revanche, ça ne veut pas dire que tous les mois, 9 Français sur 10 mettent de l'argent de côté. On a eu alors des études qui datent un petit peu là-dessus. L'INSEE, donc l'Institut statistique, avait regardé justement quel ménage épargne en 2022, alors un peu au plus fort de la crise inflationniste. Et on voyait que, en gros, les 20% les plus pauvres, non seulement n'épargnaient pas, mais avaient tendance à soit puiser dans leur épargne, soit s'endetter pour payer leurs dépenses. Les 20% suivants, en gros, consommaient l'intégralité de leurs revenus. Et donc, il en reste 60% qui, de manière régulière, épargnent. Et ensuite, plus on a des revenus importants, plus on épargne, même en proportion du revenu.
Ça paraissait un peu contradictoire de retérouser ce chiffre de 9 Français sur 10 qui ont de l'épargne, quand on sait qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à boucler leur fin de mois ou qu'il y a des problèmes de surendettement aussi.
Oui, tout à fait. Mais quand on dit des Français ont de l'épargne, ça peut être pour différents motifs. La première raison d'avoir de l'épargne, c'est j'ai mis un peu d'argent de côté pour les coups durs. Pour si je perds mon travail, pour si mes enfants ont besoin d'aide, etc., etc. Et donc ça, c'est pas forcément des montants très importants. Ça peut être un mois, deux mois de salaire que j'ai mis de côté. Et ensuite, quand on parle de qui a de l'épargne financière, investi dans des produits financiers plus compliqués, évidemment, c'est une proportion moins importante.
Michel nous appelle du département de Lyon. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons. Vous vouliez, je crois, nous parler du taux du livret A.
Oui, merci d'avoir pris mon appel. Oui, je voulais vous dire simplement que les Français pratiquent la politique de la fourmi à l'égard de leur épargne en raison de l'insécurité de l'avenir. Et pendant ce temps-là, le gouvernement baisse les taux d'intérêt, ce qui les angoisse encore davantage et ça bloque encore davantage leur envie de dépenser. Alors moi, je pense que de remonter un petit peu le taux, les taux d'intérêt relanceraient l'économie, les gens seraient plus en sécurité, réachèteraient une voiture, une machine à laver. Et ça relancerait également l'économie et l'emploi. Voilà ce que je pense.
Merci Michel. Vous-même, vous épargnez sur un livret A, par exemple ?
Par exemple, oui.
D'accord. Et vous continuez à le faire malgré la baisse des taux ?
Écoutez, oui. Je ne vous cache pas que je bloque tout. Je ne dépense pas.
Vous ne dépensez pas. Merci Michel pour ce témoignage. Dorothée Rouzet, on peut rappeler qui décide de baisser le taux du livret A. C'est effectivement le gouvernement, c'est le ministre de l'économie qui a la main là-dessus. Et puis l'impact que ça peut avoir, Michel nous dit, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur la consommation.
Oui, alors très concrètement, qui décide ? En fait, le taux du livret A, il est d'abord déterminé selon une formule qui dépend à la fois de l'inflation, donc de l'augmentation des prix sur l'année passée, c'est calculé tous les 6 mois d'ailleurs. Et cette formule, elle dépend aussi des taux auxquels les banques se prêtent et empruntent les unes aux autres. Cette formule, elle est calculée tous les 6 mois par la Banque de France. Et le gouverneur de la Banque de France fait une recommandation au ministre de l'Économie et des Finances, qui, en général, la suit, même s'il n'y est pas absolument et strictement obligé. Ensuite, ce qui est important, je pense, sur le taux du livret A, c'est pas tant de regarder, je dirais, le taux lui-même, qui est passé à 1,5% au 1er février, mais quel pouvoir d'achat ça donne. Si je m'explique, c'est qu'en fait, ce qui est important en termes de pouvoir d'achat, c'est est-ce que ce taux, il est plus important ou moins important que l'inflation. Si j'ai 100 euros sur mon compte, que le taux c'est 2%, mais que j'ai 5% d'inflation, en fait, je me suis appauvrie.
Et là, l'idée du livret A, c'est plus intéressant.
Et voilà, l'idée du livret A, c'est qu'il y a une certaine protection contre l'inflation. C'est pour ça que le taux dépend de l'inflation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des taux plus, enfin, facialement plus intéressants. Il est monté à 3% en 2023-2024, mais c'est aussi parce que l'inflation était plus
forte à ce moment-là.
Aujourd'hui, le dernier chiffre d'inflation qu'on a eu ce matin pour le mois de janvier, c'est 0,3% sur un an. Et vous avez un taux du livret A à 1,5%. Donc en fait, ça reste intéressant en termes de pouvoir d'achat.
Michel nous dit, moi je garde quand même mon argent sur mon livret A, même si c'est à 1,5, parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Est-ce que c'est le cas d'autres épargnants ou est-ce qu'il y a un mouvement, la décollecte, comme on dit, qui est en cours?
Alors, il y a
des gens qui sortent leur fonds.
De toute façon, l'incertitude est effectivement un facteur et on peut le comprendre. On a vécu une période d'instabilité politique, on s'est demandé quelles mesures fiscales allaient être prises ou pas. Ça pousse en général plutôt les gens à attendre avant de décider de faire des achats importants, de se lancer dans un projet immobilier,
un
de changer de voiture,
etc. Un budget qui a été adopté
etc.
début février au lieu d'être adopté en décembre.
Ensuite, je pense qu'il faut un peu relativiser. Il y a effectivement une décollecte sur le livret A l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a eu 1,3 milliard précisément de décollecte l'année dernière, mais à côté il y a eu 15 milliards d'intérêts sur les livrets A qui ont été versés et qui sont restés. Donc au total, le montant total d'argent qui est placé sur des livrets, en fait, a continué à augmenter.
Mais il y a plus de gens qui ont retiré leur argent.
Il y a plus de gens qui ont retiré
placé.
Leur argent, mais après des années, après 3 années où ils en avaient mis beaucoup, donc c'est en quelque sorte un retour à la normale. Et parfois, c'est pour les mettre sur des produits qui peuvent être plus attractifs, comme l'assurance vie, par exemple. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sortent leur épargne. Ça peut aussi vouloir dire qu'ils la déplacent vers d'autres types de produits.
Grosso modo, en France, sur l'épargne des Français, c'est un tiers de dépôts bancaires, un tiers de produits d'assurance, un tiers de détention d'entreprise. C'est à peu près ça,
oui,
les grands équilibres.
Oui, c'est à peu près ça, un tiers de produits très liquide, donc c'est-à-dire où l'argent est disponible immédiatement, donc votre compte courant, votre livret, etc. Un tiers sur des assurances-vie, souvent des fonds en euros qui sont aussi garantis et en partie un peu d'actions. Et un tiers sur des fonds propres d'entreprise, c'est-à-dire des actions. C'est aussi, par exemple, les entrepreneurs indépendants qui possèdent leur propre entreprise, c'est aussi leur patrimoine. Donc il y a à peu près ces 3 tiers. Après, quand on regarde ce qu'il y a derrière et ce que finance cette épargne, donc c'est un exercice qui peut être intéressant. On se dit, bah, finalement, je dépose mon argent sur mon livret A, mais il ne s'arrête pas là. Le livret A, ça va derrière financer le logement social, financer des projets d'infrastructure, etc. Ou je mets mon argent sur mon compte en banque, la banque, elle va s'en servir pour faire des prêts à des entreprises, à des ménages. Et donc, quand on regarde comme ça, que finance l'épargne des Français, on a essayé de faire cet exercice. On voit qu'à peu près 4 euros sur chaque 10 euros d'épargne des Français, in fine, quand on les retrace dans ce circuit, vont financer des actions d'entreprise. 3 euros à peu près vont financer des obligations, c'est-à-dire des titres de dette que soit les entreprises, soit l'État émettent sur les marchés. Et environ 2 euros servent à faire des prêts aux ménages, aux entreprises. Donc l'épargne des Français, même quand elle a l'air d'être sur un compte courant ou sur des produits vraiment qui sont immédiatement disponibles, elle finance aussi l'économie.
Justement, sur où va cet argent? Patricia nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Je voulais poser une question. J'aimerais savoir si l'épargne, notamment sous forme d'obligations en assurance vie, sert à financer le déficit de l'État.
Merci Patricia pour cette question. Dorothée Rouzet.
Alors, en partie oui, parmi d'autres usages. Donc les assurances vie, comme les fonds du livret A, sont en partie investis dans des obligations d'État, c'est-à-dire les titres de dette de l'État français. Ce qui est un placement qui est à la fois sûr, qui rapporte un taux d'intérêt, donc qui répond en général à ce qui correspond au placement type les fonds en euros d'assurance vie, qui sont garantis en capital et qui offrent un rendement positif. Donc c'est une partie, c'est seulement une partie de la base d'investisseurs de l'État français, mais ça fournit aussi des investisseurs stables et récurrents sur la dette française parmi d'autres investisseurs.
Quand vous dites c'est une partie, est-ce qu'on peut avoir une idée de la proportion de la dette française? Donc on est à 3500 milliards d'euros, c'est ça à peu près. Quelle est la part de cette dette qui est détenue par les Français?
Alors la dette, en gros, la dette française, il y en a à peu près la moitié qui est détenu par des investisseurs étrangers, donc moitié zone euro, moitié hors zone euro, donc ce qui permet aussi de diversifier, et la moitié qui est détenue par des investisseurs français, donc en partie la Banque de France, parce qu'elle agit pour le compte de la Banque Centrale Européenne qui a acheté à une époque des sites de dette de tous les États européens, et donc il reste environ un quart qui sont des acteurs financiers français. Donc c'est votre assureur quand vous avez acheté une assurance vie, c'est en partie des banques, etc. et d'autres institutions.
Ça, c'est une protection.
Qui servent d'intermédiaire en fait entre les épargnants français et l'État qui émet de la dette.
C'est une protection pour la France, malgré cette très forte dette, elle est détenue en partie par les Français.
En fait, la protection, c'est d'être détenue par différents types de personnes. C'est d'abord la diversité et qui vont chercher potentiellement certains de la dette à court terme, certains de la dette à long terme, certains une protection contre l'inflation, d'autres des obligations vertes. Et donc ça permet de diversifier et donc d'avoir une base d'investisseurs qui reste stable.
Ça, c'est de l'argent qui sert à financer la dette française. Il y a aussi de l'argent qui sert, et vous l'avez dit, à financer des entreprises. Dans ce contexte, et malgré une épargne qui est conséquente en France, il y a beaucoup d'entreprises françaises et européennes qui cherchent à se financer aux États-Unis. Pour quelles raisons ? Il n'y a pas assez de sources de financement aujourd'hui en France et plus largement en Europe ?
En fait, on l'a dit, on a beaucoup d'épargne. On est plutôt des peuples de fourmis en Europe. On épargne beaucoup, mais on épargne beaucoup sur des placements peu risqués où l'argent est immédiatement disponible. Or, ce dont les entreprises ont besoin en général, c'est plutôt de l'épargne de long terme et parfois avec un certain niveau de risque. Et on a du mal à faire se rencontrer cette offre et cette demande, en quelque sorte. Ce qui est un vrai défi pour les entreprises, parce qu'on peut se retrouver avec des entreprises prometteuses qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de financement pour grandir, qui ne le trouvent pas forcément en Europe et qui, du coup, vont aller se financer aux États-Unis au moment où elles sont en croissance. Et ce, alors qu'on vient de le dire, on a beaucoup d'épargne en Europe. Donc là, l'enjeu, c'est d'essayer d'aller orienter davantage une partie de cette épargne pour les épargnants à qui ça correspond, hein, en termes d'envie de prendre du risque, en termes d'horizon de placement.
Mais c'est quoi le problème ? C'est pas assez rémunérateur ? Il faut que ce soit plus rémunérateur pour un Européen que pour un Américain ? C'est une question de culture, parce que ça fait des années qu'on fait ce constat-là, au fond.
Alors, je dirais qu'il y a peut-être trois sujets. L'un, c'est oui, il y a sans doute une question de culture du risque. Il y a une question d'éducation financière. Donc les Français ont, au moins pour la moitié d'entre eux, des projets pour leur épargne financière. Mais 7 Français sur 10 disent qu'ils manquent de connaissances, ils estiment manquer de connaissances financières pour bien savoir comment investir. Donc forcément, on hésite un peu plus à prendre du risque, à bloquer son épargne sur du long terme, si on sent qu'on n'est pas forcément équipé pour bien comprendre comment on investit. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et puis, il y a sans doute aussi une question de rendement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les épargnants qui ont les moyens de prendre du risque, d'attendre le long terme, ils vont vers quoi ? Ils vont vers la tech américaine, parce que les rendements, en tout cas jusqu'à présent, sont très élevés.
Ouais.
Et là, c'est plutôt une question, je dirais, de faire notre travail en termes de politique économique en Europe pour que nos entreprises aient des perspectives de croissance, qu'elles aient moins d'obstacles, par exemple, à aller sur plusieurs marchés au sein de l'Union européenne. Et donc, bah, si elles ont plus de perspectives de grandir, elles vont pouvoir promettre des rendements plus importants, etc. Donc, on a un peu tout cet ensemble de sujets, mais effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir davantage d'épargne qui va vers du long terme pour pouvoir financer la croissance de nos entreprises et donc l'activité et l'emploi chez nous.
Merci Dorothée Rouzet d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le 13-14, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Chef économiste de la Direction Générale du Trésor.
Merci.
13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton à la ferme. Jusqu'à vendredi, nous suivons la nouvelle vie de Guy Lingrange à Frontenat dans le Beaujolais. Il était chercheur en agronomie, il est devenu éleveur laitier, tout cela en reprenant l'exploitation familiale, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, il nous raconte sa décision en plongeant dans ses archives.
Donc on est devant un ordinateur sur lequel j'ai un dossier qui s'appelle thèse. Donc voilà, c'est la page de garde de la thèse avec le logo de l'université de Trinity College. The effect of plant diversity on droughts on the agronomic performance of intensively managed grassland communities. Ça fait longtemps que je ne me suis pas plongé là-dedans. Mais j'ai grandi sur une ferme avec mes 4 sœurs, ici où nous sommes présentement. J'ai passé beaucoup de temps dans cette cuisine et j'ai été dans un lycée agricole parce que l'agriculture, Ça m'intriguait bien. J'ai un enseignant d'agronomie qui m'a impressionné et je me suis dit, ouais, je voudrais faire pareil. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller en école d'ingénieur? Donc j'ai fait un BTS, une prépa post-BTS pour accéder à un concours d'entrée dans les écoles publiques d'agronomie. Voilà, j'ai été à l'école d'agronomie de Clermont-Ferrand qui s'appelle Vetagrosup. Après, j'ai été faire un semestre au Brésil. J'ai fait mon stage de fin d'études au Sénégal. Et entre-temps, bah, du coup, j'ai pris goût à la recherche. Quand on veut faire de la recherche, souvent, le passage obligé, c'est la thèse. Ma thèse en 3 secondes, mélanger des espèces, ça marche. Alors, on a quelques photos pour la contextualisation du dispositif expérimental. Donc, pendant mes 4 ans de thèse au Chagask, donc c'est l'équivalent de l'INRA en Irlande. L'INRAE, Institut National de Recherche en Agronomie et en Environnement. Voilà, c'est un champ qu'on a semé avec différentes modalités. Donc soit du régras une seule espèce, soit une seule espèce de légumineuse, soit le mélange de graminées légumineuses, soit des plantes diverses. L'idée, c'est de répondre à une question scientifique qui est, est-ce qu'on peut produire de l'herbe pâturable à moindre intrant, malgré un contexte défavorable, par exemple une sécheresse? En gros, le résultat de la thèse, c'est que les prairies avec plusieurs espèces sont aussi performantes que les prairies avec une seule espèce en contexte favorable. En 2021, ma production intellectuelle du Covid, ça a été de me décider que c'était le moment de reprendre la ferme familiale.
Oui ?
Oui, bonjour papa, c'est Guylain.
Salut, ça va ?
Bien et toi ?
Bonjour, je suis François Grange, je suis retraité depuis 2 ans maintenant. J'étais éleveur de vaches laitières en bio avec un associé. Guylain, qui lui était parti en études. Après, il est parti un peu loin en études. J'ai dit, bon, bah, ça y est, cette fois, c'est cuit. Donc, on va penser une reprise par Aymeric tout seul. Et puis, finalement, le confinement a dû faire réfléchir Guylain, qui m'a annoncé donc qu'il voulait reprendre la ferme. Moi, ça m'a beaucoup surpris parce que on s'était pas trop organisé pour.
J'ai passé beaucoup de temps au téléphone, notamment avec mon père qui est associé avec Aymeric, qui est devenu mon associé, parce que du coup on s'est lancé dans 20 ans de vie professionnelle commune, donc c'est une décision qui n'est pas légère à prendre.
J'avais compris qu'il était très intéressé par tout ce qui était scientifique, recherche. Je sentais qu'il avait vraiment un plaisir à parler de ses études, à brasser des idées, plutôt que de la merde, quoi.
Après avoir parcouru le monde, j'avais envie de me sédentariser et un peu de renvoyer l'ascenseur de toutes les expériences que j'ai pu faire par le monde. Et j'avais envie de produire du concret, du matériel, de l'alimentation.
Oui, j'aime bien me vanter d'avoir transmis ma ferme, d'avoir 2 jeunes sur la ferme aujourd'hui et de ne pas être indispensable.
Et il y a de quoi être fier, effectivement. Deuxième épisode de notre feuilleton signé Rémi Brancato. Vous le retrouvez sur le site de France Inter. Ça s'appelle « Une semaine dans leur vie ».
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h51. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ses petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de vidéosurveillance.
Et je vous emmène, Jérôme, à Lorient, dans le Morbihan, précisément dans un petit supermarché où une affiche montre une capture d'écran avec la silhouette d'un client complètement anonymisé et flouté qui semble mettre un article dans son sac. Juste en dessous, la phrase suivante: nous utilisons l'IA pour prévenir les vols. C'est ce qu'on appelle, Jérôme, de la vidéosurveillance algorithmique. Concrètement, un logiciel de reconnaissance par intelligence artificielle a été ajouté aux caméras dès à présent. Il analyse tous les gestes en direct. Je cite mon collègue de Ouest France, Maxime Sonnen, qui raconte: le téléphone du gérant vibre. Il a reçu une notification. Sur une vidéo de quelques secondes, une application lui montre le comportement suspect détecté par l'IA d'un des clients. Fausse alerte, la personne a simplement mis sa main dans sa poche. Le responsable du magasin complète: on peut choisir le niveau de prévention, moi je l'ai mis au maximum. Tout ce qui est mis dans un sac ou dans une poche nous est rapporté, c'est à nous de juger de la situation ou de voir si à la caisse le client ressort bien les produits dans les sacs. Au total, on peut recevoir 200 notifications par jour.
Bon, dans cet exemple, l'IA s'était trompée. Quels sont les résultats, Cyril ?
Eh bien, le gérant estime avoir 2 fois moins de tentatives de vol à l'étalage. Je le cite: quand un voleur est pris, j'appelle la police au moins pour marquer le coup. Ensuite, ils ne reviennent pas. Alors en 2024, 42 000 vols à l'étalage ont été constatés par le ministère de l'Intérieur, ce qui exclut les vols non repérés et ceux non signalés. À Lorient, le responsable du supermarché cite et estimé, lui, à 10 000 euros par an les pertes liées aux vols, ce qui peut pousser à augmenter les prix pour compenser ou à
agir sur l'emploi.
Est-ce que ces dispositifs de surveillance sont très répandus ?
Environ 3000 commerces utilisent ce dispositif. Jérôme, on trouve des supermarchés, magasins de bricolage, des pharmacies. À la Farlette, dans le Var, un supermarché a mis des caméras IA au-dessus de ses caisses automatiques, endroit très propice à la fraude. TF1 nous apprend que le système repère 23 gestes différents, comme cacher un article sous un vêtement, passer un produit en masquant discrètement le scanner, ou bien scanner un seul produit mais en poser deux dans le bac.
Mais tout ça est-il autorisé par la loi ?
Eh bien Jérôme, il y a un gros flou juridique et un manque de cadre. La vidéoprotection algorithmique via l'intelligence artificielle a été introduite en France en 2023 dans le cadre sécuritaire lié aux Jeux Olympiques de Paris sous la forme d'une expérimentation qui va être prolongée jusqu'à fin 2027 par la nouvelle loi olympique liée aux Jeux de 2030 dans les Alpes françaises. Mais cette loi reste dédiée aux manifestations récréatives, sportives et culturelles et non pas au commerce. Une proposition de loi en revanche est discutée depuis hier soir, Jérôme, à l'Assemblée nationale. Ouais. Elle vise à autoriser l'expérimentation dans les commerces de cette vidéoprotection algorithmique. Ceux qui s'y opposent mettent notamment en avant la défense des libertés fondamentales et même doutent de l'efficacité du dispositif.
Il faut dire que ce débat ne concerne pas que les commerces.
Non, il touche aussi les communes. Vendredi, le Conseil d'État a confirmé l'interdiction en l'état actuel de la loi de la vidéosurveillance algorithmique mise en place par la ville de Nice à l'entrée des écoles. Et puis, selon France Info, qui a interrogé des spécialistes, la vidéosurveillance algorithmique s'étend dans l'espace public de plus en plus et souvent à l'insu des personnes observées et en toute opacité, dénoncent ses opposants.
Cyril Petit pour ce C'est la France. Cyril du journal Ouest France de C'est la France. Ah, c'est une chanson à quelques jours du début des Jeux Olympiques d'hiver à Milan. Cortina, nous retrouvons grâce à Frédéric Pommier des médaillés olympiques et aujourd'hui avec Frédéric le double champion olympique de volleyball, Erwin Gapet.
Et c'est un morceau du rappeur SDM qu'il a souhaité que l'on écoute, redescend en duo avec le rappeur Tiakola.
Cette chanson-là, je me suis rendu compte, en fait, je peux l'écouter à n'importe quel moment, n'importe quel état, en fait. C'est une musique, quand t'es triste, tu l'écoutes. C'est une musique quand il y a de la joie, pour fêter une victoire. C'est vraiment, en fait, une musique qui s'adapte à ton mood et toi, tu la prends comme tu veux. Et en fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, à chaque étape de ma vie importante, que ce soit positif ou négatif, ben c'est cette musique qui revenait. Par exemple, les Jeux, Tokyo, c'était incroyable. Elle tournait en boucle. Mais tu vois, moi, je suis à l'étranger. Des fois, il y a des moments compliqués. J'écoute beaucoup cette musique-là aussi. Et puis, ces deux artistes qui sont très forts et que j'apprécie énormément.
Mes ennemis dans le visage, je remontais la visière. Maintenant, c'est moi dans le top sur 10 heures. Faut pas, je gâche ma vie bête.
Mon ange de gauche me dit fais-le. Le monde est rempli de fais-le. Et dans le secteur, je suis leur bête, moi. Je veux pas laisser ma vie bête, moi.
Un shoot, y'a pas photo. Ton dernier souvenir, c'est la moto. Madame la juge libère mes potos. Bavure policière, le quartier n'est pas content.
C'est quoi les moments difficiles, en particulier quand vous êtes à l'étranger ?
Bon, c'est quand il y a des défaites. C'est quand la famille te manque, c'est quand la France te manque. Mon petit truc, c'est la nourriture, tu vois, la nourriture française. Ma maman, elle vient avec des amis et je lui dis de remplir la valise de fromage, tu vois. Et les moments compliqués, c'est quand ça se passe moins bien. Puis donc voilà, un peu de musique et c'est reparti. Mais c'est vrai que c'est aussi des moments compliqués, des fois.
Des moments où on se sent un peu tout seul ?
Exactement. Il y a des moments de solitude qui sont compliqués, ouais.
Et cette musique-là, elle vous permet de vous sentir moins seul ?
C'est ça. J'ai des flashs quand je l'écoute. J'ai des flashs. Là, j'ai gagné le championnat en Turquie et on me dit « Erwin, mets la musique !» Et c'est la première qui est sortie, tu vois. Donc elle est vraiment associée à des bons moments, mais c'est vrai que dans les moments compliqués, je l'écoute aussi.
Les ennemis dans le visage, je remonte la visière. Maintenant, c'est moi dans le top sur 10 heures. Pourquoi je cache ma vie bête ?
Faut que tu redescends. Parce que j'ai plus la Z dans les mains.
Au public j'ai dit oh les mains. J'ai plus que madame la juge me dise t'es les mains.
Des soucis y'en a tellement que je peux pas vivre ma vie vers le Panama.
Pour vous, elle raconte quoi cette chanson-là?
C'est une musique qui explique qu'il faut garder les pieds sur terre. Tu vois, elle s'appelle Redescend. Mais c'est aussi une musique qui a un rythme un peu afro où tu peux bouger, tu vois, aussi dessus.
Il y a effectivement un texte sérieux sur une musique qui chaloupe.
C'est ça, qui chaloupe, comme tu dis, j'aime bien ce mot. C'est ça.
Est-ce que vous avez l'impression que vous, il vous est arrivé d'avoir besoin de redescendre sur Terre parce que vous vous étiez mis un peu trop haut ?
Pour beaucoup de sportifs, c'est pas toi qui te mets en haut, en fait. Il y a le public, mais il y a aussi l'entourage, tout le temps recevoir des éloges et tout. Et moi, je sais qu'après Tokyo, ça a été super important pour moi de rentrer chez moi et d'être tout seul, tu vois ? Parce qu'il y avait eu tellement de choses en 4 jours qui se sont passées. L'arrivée à Paris, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'après tout ça, il faut redescendre, tu vois.
Pour pas perdre pied.
Pour pas perdre pied et puis pour se remettre dans la vraie vie, tu vois.
C'est vraiment ce que dit la chanson.
C'est exactement ça.
Donc elle vous fait du bien, cette
chanson. Ouais, moi, elle me fait du bien. Elle me fait vraiment du bien.
Redescend du rappeur SDM Frédéric Pommier avec Erwin Gapet, c'était à l'été 2024. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Quel est le programme aujourd'hui ?
On s'intéresse à l'impact écologique des data centers en France.
Merci et c'est dans un instant dans la Terre au Carré.